Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Florent Gautreau est là et nous avons le privilège, messieurs, d'avoir avec nous Florent Germain et Nicolas Villas avant Sporting OM demain soir.
Beaucoup de
bon, Nico, tu peux faire peur un peu à Florent Germain, quoi, fais un truc. Coule vraiment les jetons, quoi.
Juste un petit point Ligue 2 d'abord, Xavier Laval-Bordeaux.
Oui, il reste 12 minutes à jouer à Le Basser et c'est Bordeaux qui mène 2 buts à 1. Maja Ellis pour les buteurs bordelais, Maggiotti pour Laval, mais attention parce que Bordeaux recule et les Lavallois vont tenter évidemment jusqu'au bout d'égaliser. 12 minutes encore pour que Bordeaux garde son avantage et passe la soirée en tête de la Ligue 2.
Ça marche, à tout à l'heure. Si tu arrives à faire flipper Florent Germain, Nico, vas-y.
Et Francis, c'est donc le nom de stade le plus fréquent. Francis Le Basser, Francis Le Blé.
C'était une stat.
Il y en a deux.
Je suis pas sûr qu'il y ait un autre stade avec deux fois le même.
Il y a Francis Le Blé rebaptisé Francis Le Bled.
Ou Francis Le Pas de Blé.
Nico, vas-y.
Francis La Caillasse.
Non, j'allais vous dire, moi, il y a un joueur qui attire mon attention depuis qu'il est au Portugal, qui est un jeune Uruguayen qui s'appelle Manuel Ugarte, et que vous allez regarder demain, numéro 15 du Sporting, milieu de terrain. C'est vrai que le Sporting, ils ont perdu quand même deux joueurs qui étaient très importants dans les derniers instants du mercato, qui sont Palinha et qui est parti à Fulham, et surtout Mateus Nunes qui est parti dans les derniers instants à Wolverhampton. Et ils ont été obligés de refaire le milieu de terrain, qui était vraiment le secteur fort de cette équipe. Ils ont recruté un Japonais. Il y a une grosse hype autour des Japonais au Portugal depuis 2-3 ans d'ailleurs. Ah bon? Il s'appelle Morita, qui est pas mal du tout, joueur assez fin techniquement.
D'habitude, ils vont en Allemagne, les Japonais.
Ouais, bah là, ça fait, écoute, il y a une grosse hype autour d'ailleurs de globalement de la zone Asie. Il y a beaucoup d'Iraniens ces dernières années, pas mal de Japonais aussi. Et Ugarte, qui était un joueur qui était à Famalicão en D1 aussi, où le Sporting est allé le chercher, qui est un joueur qui est en train de flamber. D'ailleurs, c'est une info qui est sortie la semaine dernière au Portugal. Le Paris Saint-Germain le suivrait soit pour le mercato d'hiver, soit pour la saison prochaine. Donc vraiment, suivez ce joueur. Moi, je pense que demain, il y aura une bataille au milieu de terrain qui va être super importante. D'où, je pense, le positionnement dont parlait tout à l'heure Flo Germain, d'un Guendouzi potentiellement plus bas que d'habitude. Je pense que Tudor le sait. Ils ont observé cette équipe très bien. Tu le disais, Daniel, c'est une équipe qui est très difficile à bouger, même si encore une fois il y aura les absences de Coates et de Porro qui seront importantes. Mais tout va se jouer au milieu de terrain et le Ugarte va être un joueur que vraiment l'OM va devoir surveiller demain. Ce sera la plaque tournante avec Morita. Ces deux mecs qui finalement découvrent et ont vraiment des responsabilités cette saison, mais ils font énormément de bien au Sporting, surtout en Ligue des Champions d'ailleurs.
Est-ce que tu flippes, Flo?
Non, mais j'espère que les Marseillais ont conscience je me suis fait plaisir à regarder de nouveau hier les, parce que Flo Gautreau disait que les victoires, notamment la dernière là, c'était joué un peu sur le fil. Enfin, je crois qu'ils ont marqué les deux buts quasiment dans le temps additionnel contre Tottenham. Mais honnêtement, enfin, j'ai trouvé que ça allait très très vite et que c'était une sacrée équipe, Nico. De certains résumés. Enfin, je sais pas. Cette équipe dégage un certain engouement. Ça sent beaucoup le ballon. Ça pue le foot au Sporting.
Nico Villas, parfois, il est assez machiavélique. Vous savez ce qu'il a fait? Comme ça, discretos, il a fait un podcast, ouais, After Galaxy sur la série de défaites de l'OM en Ligue des Champions, le mec.
Ah non, mais c'est pas,
non,
c'est
mais
pas
c'était, là-dessus. C'était une positive.
Juste avant le match de Sporting, moi je dis ça.
C'était une lecture positive de la chose.
Tu l'as pas écouté.
Non, c'était du fact-checking avec Loïc Moreau et avec Romain Canotti. Mais non, c'est pas du tout pour. Non, au contraire, c'est plus pour aller au-delà de ceux qui peuvent tailler pour dire à la défaite.
Mais vous avez réussi à trouver des bonnes stats sur les 16 défaites.
Non, c'est pas forcément des bonnes stats, c'est tenter de comprendre et d'analyser. Parce que finalement, tu analyses 17 matchs sur 10 ans. Donc il y a plein de choses qui se cachent derrière. Derrière ces chiffres. Non, en revanche, pour rebondir sur ce que disait.
Faut rappeler juste que cette série, elle a commencé avec une qualif pour un quart de finale de.
Exactement, face à l'Inter. Ouais.
Faudrait que tout le monde l'ait en tête quand même, parce qu'on compte dans cette série la défaite de l'Inter qui avait été un moment heureux, puisqu'il y avait eu le contrôle du dos de Brandao, la frappe enchaînée. Donc, bon, les séries, faut aussi faire attention, même si les deux. Moi, je préfère dire que les deux dernières campagnes ont été ridicules plutôt que d'insister sur la série.
Les deux dernières campagnes ridicules, c'est déjà assez parlant quand même.
Ben oui, je sais bien, non, mais après, je veux dire.
Ça fait 12 plus 2, 14.
Non, mais au-delà de chiffres, des campagnes et tout, c'est vrai que ça peut d'abord faire peur aux supporters. Le groupe, je sais pas trop, il a pas vécu ça. Enfin, quelques joueurs sont encore là de la dernière, mais enfin bon. C'est juste que c'est le troisième match, que le Sporting est une belle équipe et que si tu perds, c'est terminé. et que encore voilà. une fois tu prends la porte dans la tronche dans cette compète et que même la troisième place elle sera difficile à accrocher.
Exactement.
Demain il te reste quand même quelque chose à faire et il va pas falloir que tu dors hésite comme sur le premier match où bon sa stratégie était claire, c'est on bétonne, on essaye un hold up. Le deuxième on y va pour attaquer et au fond on n'attaque pas, on fait rien du tout, on est amorphe et on se fait prendre en contre. Celui-là, non seulement il faut y aller, mais tu dois le gagner. Et c'est face à une très bonne équipe, attention.
C'était l'objet de ma première question d'ailleurs à Igor Tudor pour RMC Sport. On a des interviews en tête à tête là. Et là, je vous partage cette petite anecdote. Du coup, première question, je demande à Igor Tudor si c'est un peu le match de la dernière chance. En tout cas, voilà, il faut pas se manquer et qu'il y a une vraie obligation de résultat. Donc, bon, il m'a répondu de manière correcte et sympathique. Et puis après l'interview, il m'a un peu malaxé l'épaule. Là, il faudra déjà aller chez le kiné demain parce qu'il est un peu costaud. Et pour le coup, c'est la première fois, je dis sincèrement, où j'ai pu prendre 5-10 minutes à discuter avec lui hors micro. Et il m'a joué le jeu du de toute façon, les journalistes, vous êtes toujours dans le sensationnel, toujours à exagérer. Tu vois ta première question là, à dire que c'est le match de la dernière chance. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je lui dis, mais attendez, coach, si demain vous perdez, donc vous portez encore des chances de vous qualifier. Et je te prends un peu à témoin, Daniel, parce que lui qui connaît l'Italie parfaitement, mais moi je pense, hein, je connais un peu plus l'Espagne, mais qu'on est des enfants de cœur par rapport à certains pays comme l'Italie ou l'Espagne, où parfois on aurait tendance aussi dans ces pays-là à faire peut-être à exagérer les choses ou à faire des shows où on va un petit peu plus loin. Donc je pense pas qu'Igor Tudor il puisse découvrir ça. Et j'ai été très surpris que lui n'avoue pas, ne reconnaisse pas que ce match de demain, il est capital pour l'avenir de l'OM en Ligue des Champions.
De toute façon, jouer sur les mots, il reconnaît pas. Pourquoi ? En fait, je comprends pas l'idée, la polémique.
C'est-à-dire que lui ne veut pas accepter l'idée que ce match est le match de la dernière chance demain.
Si t'as trois défaites,
c'est exagéré de dire ça. Mais on est d'accord, mais c'est ce que je lui ai dit.
Il va pas gagner les trois matchs d'après.
Après, mon espagnol et lui son italien, mais. J'en ai souri plus qu'autre chose. Je me suis dit, ou alors c'est que
il va enlever un peu de pression à son groupe.
Ou alors faut voir une autre lecture parce que de plus en plus je me rends compte, même après la défaite contre Francfort, que Igor Tudor est allé rappeler que l'OM était dans le chapeau 4. Moi j'ai l'impression que l'OM veut surtout pas se mettre de pression cette saison en Ligue des Champions. L'objectif pour l'OM c'est de se qualifier à nouveau, d'y être tous les ans pour financièrement sécuriser un petit peu le club et puis ne plus être dans le chapeau 4, passer dans le chapeau 3 et avoir cette expérience au fil des saisons. Et j'ai l'impression que même les dirigeants, Pablo Longoria, Javier Ribalta, ne mettent pas une pression plus forte que ça à Igor Tudor concernant cette saison en Ligue des Champions. Et que on va faire le match, mais j'ai l'impression qu'on glisse quand même dans l'oreille ses grandes priorités au championnat. Ce sera pas un drame si jamais on n'y arrive pas. C'est le sentiment que ça me donne, parce que pour moi, enfin, à Marseille, tout le monde a conscience que demain, s'il n'y a pas victoire, finito, hein, comme dirait un président de la République. Donc j'étais un petit peu surpris par. Non, mais j'étais un petit peu surpris par le fait qu'il ne veuille pas reconnaître que demain c'était un match à la moitié.
En off, il veut pas le reconnaître en off. C'est ça qui est intéressant. Parce que s'il te l'avait répondu en on, ça voulait dire que c'était de la com pour dire j'enlève de la pression à tout le monde. S'il te le dit en off, c'est plus intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose de vrai, de sincère. Et c'est peut-être, comme tu le dis, parce que pour lui, il pense qu'il n'a pas vraiment l'effectif aussi adéquat, moi je pense, pour aller loin, et que effectivement les dirigeants peuvent penser ce que tu dis, que le championnat est prioritaire. J'avais une question quand même sur ce stade vide, parce que j'ai écouté un peu le débat que vous avez fait, je crois que c'était dans le Moscato Show ou chez Roten, je ne sais plus. J'ai un peu de surprise, j'ai entendu le stade vide, c'est peut-être pas plus mal, ça leur a de la pression, parce que je pense que c'est un énorme handicap quand même, t'es d'accord, Florent?
Bien sûr.
Parce que c'est quand même dommage de jouer un match décisif.
C'est même plus qu'un handicap, Flo. Franchement, il y a des supporters à Marseille qui sont en totale déprime par rapport à ça, parce que il faut rappeler que les deux dernières campagnes de Ligue des Champions, il y avait eu celle du Covid avec Villas-Boas, et puis celle d'avant, le stade était en travaux, l'ambiance elle était pas top. Là, franchement, il y avait un enthousiasme général à Marseille de se dire plus la poule, elle est sympa, ça il y aura de l'enjeu, etc. Et puis tout le monde se faisait une joie de que le stade soit plein. Et là, première rencontre, bam, tu prends un huis clos, il faut rappeler que le virage nord sera fermé contre Tottenham. Donc non, franchement, c'est très très mal vécu. Après, il se trouve qu'il y a un enjeu sportif et les joueurs vont être concentrés là-dessus. Mais Amin Harit, par exemple, qu'on a rencontré en fin de semaine dernière, voilà, il cache pas que la fête elle est gâchée et que
justement, à ce titre quand même.
Nico Villas veut remplacer une.
Non mais juste là-dessus, parce que Amorim a été interrogé aussi là-dessus sur le fait que le match soit à huis clos. Là pareil, il y avait un parallèle qui était assez intéressant qui a été rappelé par Amorim. Le Sporting, quand ils ont été champions il y a 2 ans, ils le sont pendant la période Covid, donc pendant les stades vides, le Sporting était plus champion depuis 19 ans, hein, donc ça faisait une éternité que le Sporting courait après ce titre de champion du Portugal. Et Amorim a été interrogé là-dessus, il a dit bah, nous il y a 2 ans on a été champion sans le public, donc on sait qu'on peut gagner sans le public. Et à l'époque d'ailleurs, il y avait une telle tension entre les supporters et les joueurs du Sporting que certains au Portugal avaient analysé la victoire finale du Sporting en championnat parce que le public n'était pas là, c'est-à-dire ils évitaient la pression. Et c'est ce qu'Amorim a dit tout à l'heure en conf de presse en disant vous savez, c'est à double tranchant d'avoir un public qui est chaud bouillant comme c'est le cas à Marseille, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous pousser, oui, mais peuvent aussi parfois porter.
Dans un contexte difficile, je suis d'accord, Nico. Quand il y a
la tension, elle est positive à Marseille.
Elle est positive à Marseille, ouais, ouais. Tu perds un atout. Bon, les gars, il faut qu'on fasse une pause. Florent, merci. À demain.
Merci à vous.
Bien sûr, merci pour toutes les infos. Nico aurait pu te répondre. Lisbonne tremble parce que on sait que il y a pas Payet dans l'équipe. Ben non, il l'a pas dit, Nico. Mais il pourrait rentrer, hein, évidemment. Dans un instant, Jonathan, supporter de l'OM, et tu nous diras tout sur Benfica. Également, Nico, la semaine franco-portugaise continue dans l'after. Elle commence ce soir, elle continue demain et après-demain. Bien sûr, à tout de suite.